forme de dépendance stable. C'est un état de non-croix, comme dit Miguel Alonso. Ainsi, Neumann fait disparaître une des significations du terme état en allemand. L'état dont il parle est uniquement une communauté, la vie commune, et plus du tout l'appareil d'état. Cet appareil d'état a disparu. Dans cette vie commune, il n'y aurait plus de droit, donc plus d'état, plus d'appareil répressif. Je cite. Il y aurait domination, je cite pas fort, donc il y aurait donc domination directe du groupe dominant sur le reste de la population, sans, là je cite Neumann, sans la médiation de cet appareil rationnel, bien que coercitif, connu jusqu'ici sous le nom d'État. Fin de la citation. Ce n'est donc pas un État de non-droit, ce qui est d'une certaine manière une contradiction dans les termes, mais un État avec un minuscule, donc une sorte de situation de non-droit. Une situation de vie commune qui précède l'état civil, pour parler avec Rousseau, de la société. Autrement dit, une société, c'est une société non instituée. Notons qu'une telle représentation de l'état sera impossible dans la philosophie hegelienne, par exemple, pour laquelle il n'y a pas de société civile sans état. Donc, alors que pour Neumann, on peut imaginer une société civile qui n'est pas instituée à aucun niveau. C'est la raison pour laquelle Neumann peut rester au plus près du marxisme orthodoxe, non évidemment dans sa théorie de l'État, puisque l'État n'existait pas, mais dans sa théorie de la domination. La domination, une fois ramenée à la société civile, passe par les diverses formes de rapports de force effectifs dans cette société civile bourgeoise, dont une forme de domination est l'exploitation. Sauf que ces formes de domination n'ont désormais plus besoin de recourir à une synthèse étatique, tout simplement parce que la domination directe, passant souvent par la violence pure, est admissible comme rapport social. Dans cet état ou dans cette situation, comme pourrait également appeler un état d'exception permanent, que tout le monde peut déclarer à tout instant, déclarer l'état d'exception n'est donc plus la prérogative du Führer, donc dans cet état d'exception permanente, personne, selon Neumann, a besoin de se donner la peine de devenir une autorité. Les dominants ont à leur disposition la violence pour imposer leurs intérêts, et en ce sens, soit dit au passage, Neumann invalide également la théorie de la domination de Weber, ou au moins il dit qu'elle est plus valable pour cette complexion de l'État national-socialiste. Neumann est en ce sens le plus conséquent du penseur de l'école Francfort, parce qu'il sanctionne théoriquement le fait que l'État a été complètement absorbé par la logique de la société civile bourgeoise, c'est-à-dire par une logique de lutte et de combat entre acteurs privés, une logique capitaliste de concurrence, idéalisée sous le terme de concurrence. L'État qui, chez Hegel, aurait dû être plus fort que la société civile bourgeoise, s'avère, au vu du développement du capitalisme, plus faible. Qui se plie à sa logique, donc la société civile bourgeoise, devient un acteur privé parmi d'autres, et dans l'état extrême du nazisme, disparaît comme acteur pour laisser la société civile bourgeoise à sa logique propre, c'est-à-dire à la logique de la domination. C'est probablement Adorno qui a le plus clairement décrit cette disparition de l'État, et partant d'un semblant agir politique sous le capitalisme. Le texte d'Adorno sur l'État, qui de fait n'existe pas, mais il existe un texte où il traite du problème politique, si on veut, disons un texte où il discute avec le marxisme. Donc ce texte, intitulé « Réflexion sur la théorie des classes », et le dernier texte de cette année 42, pendant laquelle l'école de Francfort a débattu l'État. Ce texte est intéressant car il montre comment la domination a pu devenir le problème, un problème exclusivement social, auquel on n'accorde plus de valeur politique. Et je pense que c'est bien cela la thèse finalement défendue par la dialectique, la raison et la raison pour laquelle la politique n'apparaît pas dans la dialectique, la raison de guerre. Adorno, en ce sens, est beaucoup plus proche de Neumann que de Pollock ou de Horkheimer. pas étonnant qu'il soit rendu encore de Neumann en 66, 68, dans un cours qu'il dispense sur la sociologie. Je cite, « Le Behemoth, que je considère comme étant la présentation socio-économique la plus appropriée du fascisme qui existe à ce jour, a montré que l'intégration sous le fascisme est un phénomène de surface. Sous le vernis ex-momens de l'État total, gronde un combat presque archaïque et anarchique entre les différents groupes sociaux. » Fin de la citation. Adorno poursuit en émettant l'hypothèse que l'intégration sociale sous le régime capitaliste ne se distingue qu'en degré de cette logique fasciste. Ce qui me semble intéressant dans ce passage est le terme archaïque, puisqu'il peut être relié à un autre terme constituant la matrice des réflexions sur la théorie de classe, à savoir celui de préhistoire. Dans sa première thèse sur la théorie des classes, Adorno constate à sa toute fin, je cite, « Toute l'histoire est dite histoire des luttes de classe, parce que tout cela a toujours été la même chose, de la préhistoire. » Fin de la citation. Adorno, dans la suite de son texte, déconstruit non seulement le concept de classe dont la réalité objective aurait disparu en même temps que le capitalisme concurrentiel, mais, et ceci me semble le plus intéressant dans notre contexte, il déconstruit le concept de lutte. La lutte, dans la théorie marxiste, eut immédiatement une signification politique, en ce sens que deux classes, constituées comme classes, donc des entités qui, du moins pour ce qui concerne la classe ouvrière, ont élaboré des visées communes, entrent en lutte pour des fins politiques. Cette lutte perd cette signification politique dans la théorie d'Adorno. Ce dernier, en jouant sur la polysémie du terme allemand Kampf, qui renvoie autant à Marx qu'à Hegel et à la lutte à la mort, émet l'hypothèse qu'il faut lire l'histoire non comme l'histoire d'une lutte des classes, mais comme un combat entre des intérêts privés. La référence est donc nettement hegelienne. La lutte des classes est interprétée comme un modèle spécifique du conflit et n'est pas la matrice de l'histoire. Adorno voit très bien que la lutte des classes comme agir politique ne devient possible qu'à partir du moment où il y a partage des expériences, de l'oppression, confrontation entre ces expériences singulières voire hétérogènes, et constitution des êtres singuliers, isolés, dans et par l'oppression, en classe. La lutte politique donc ne devient possible que s'il y a auparavant agir commun des hommes qui se constituent en classe. Un agir commun qu'on pourrait peut-être davantage appeler politique que toute autre chose. Or, Adorno nie non seulement expressément que cette expérience d'être une classe est encore possible, mais il déclare tout simplement que cette expérience et la constitution en classe qui s'en suivait furent des phénomènes passagers de l'histoire. Elle ne constitue nullement la crise à travers laquelle il faut lire l'histoire pour la comprendre. Et l'histoire, donc, du coup, n'est pas politique, mais elle est d'autre chose, selon Adorno. La thèse d'Adorno est donc la suivante. La constitution en classe n'est en aucune manière une condition de la lutte entre les groupes sociaux. Ces groupes sociaux ne sont précisément pas des classes. Et au lieu de lire l'histoire comme l'histoire de lutte de classe, il convient de lire la lutte des classes, donc la lutte politique, comme une exception heureuse à la règle, une exception par rapport à ce comportement des hommes dans la préhistoire, dont nous ne sommes pas sortis, qui veut qu'on lutte les uns avec les autres à des fins de conservation de soi et par conséquent de domination. Dès que les classes ont disparu, et c'est bien le diagnostic d'Adorno comme de tous les autres penseurs de l'école Francfort à cette époque, on revient d'une certaine manière à la case de départ. Aucune lutte qu'on pourrait dire politique n'a plus lieu. Ce qui reste et ce qui a toujours eu lieu dans l'histoire de l'humanité, des combats entre individus, groupes et intérêts privés. Adorno, pour rendre plausible cette lecture de l'histoire ou du réel, fait entendre au marxisme sa propre musique. Si pour Marx l'anatomie de la société capitaliste explique celle des sociétés précédentes, Adorno applique la même logique à la lutte des classes. Il faudrait lire l'histoire d'une lutte à la lumière d'aujourd'hui, c'est-à-dire à la lumière d'une société structurée par des monopoles. L'histoire, dit-il, n'est pas l'histoire des luttes des classes, mais l'histoire des monopoles. Et la logique des monopoles est une logique de domination. Je cite, « Les l'économie est un cas particulier de l'économie, entendu au sens du monde organisé en vue de la domination. Il n'est pas vrai que ce sont les lois de l'échange qui ont conduit à la domination la plus récente. C'est au contraire l'ambiance domination qui s'est infiltrée dans l'appareillage au bon moment. Et je vous épargne le reste. Cette citation compliquée. Donc c'est la domination qui est la matrice de l'histoire et pas, même pas la logique du profit. Adorno toutefois n'élève pas la domination au statut du sujet de l'histoire, mais la relie au monde organisé. Aussi longtemps qu'il est matériellement impossible de nourrir tout le monde, la conservation de soi et le désir de domination qui en découle sont le principe moteur de l'histoire. La seule chose qui distingue l'époque moderne des temps archaïques est le fait que ces défauts de la matérialité n'existent plus objectivement et doivent donc être mis en place consciemment afin que la domination comme mode l'organisation du social puisse subsister. Il est difficile de faire dire à Adorno qui organise le monde indispensable à la survie de la domination. Sa thèse semble être que ce sont les rapports de domination eux-mêmes et non du sujet, et non pas des sujets individuels particulièrement méchants. C'est comme si la logique de la domination, qu'Adorno prétend valable également pour la phase du capitalisme libéral, comme si cette logique se perpétuait elle-même derrière le lot des sujets vivants, lesquels, ne connaissant rien d'autre en termes de rapports sociaux que des rapports de domination, le reproduisent volontairement. Une fois cela constaté, il devient moins étonnant de voir qu'Adorno concède de fait aux dominants la volonté de dominer. Tout le monde désire la domination dans la perspective qu'Adorno adopte, parce que c'est une affaire de conservation de soi. Il n'est donc pas particulièrement étrange de voir que ceux qui peuvent saisir le pouvoir le fassent. Adorno reprend ici en son compte plutôt les thèses de Pollock que celles de Neumann. Ce sont ceux qui profitent du système économique, qui sont part du système pouvoir que l'État, qui réapparaît, le fait ici, pourrait réapparaître, et qui mène une sorte de politique qui toutefois a pour caractéristique de servir uniquement la domination. L'argument est toujours le même. Comme les privilégiés de la société sont menacés par les masses appauvries, ils font le choix politique de nourrir les masses. Je cite Adorno. L'amélioration de la situation économique à l'étage du dessous ou sa stabilisation est extra-économique. Fin de la situation. Autant dire que c'est un choix politique, si on veut, mais Adorno, il ne dit pas politique, il dit extra-économique. Donc c'est un choix extra-économique qui fait en sorte que les masses puissent vivre. Ceux qui font ce choix, ce sont en effet les dominants. Ça ferme la situation. La nouvelle misère des dominés, donc maintenant nourris, au moins ça c'est clair, qui ressort de ce système ayant aboli la pauvreté, est l'impuissance sociale et politique. C'est comme si Adorno transposait la théorie de la paupérisation matérielle de Marx sur une théorie de l'accroissement et l'impuissance sociale et politique des dominés dans la société. Et le mot politique apparaît en effet à cet endroit du texte. Les dominés ne peuvent pas agir de manière politique parce qu'ils sont devenus des purs objets d'administration et en cela des objets qui ont davantage à perdre que leur chaîne. En un mot, les sujets anciennement politiques corrompus qui, au lieu de faire grève, acceptent, je cite Adorno, des primes et des pourboires. Bref, le système dans la liste d'Adorno a transformé le seul acteur politique que nous a légué la théorie marxiste, le prolétaire, qui aurait pu devenir prolétarien, donc il a transformé ce prolétaire en un être privé qui cherche avant tout à se conserver lui-même. Voilà pourquoi il faut considérer l'histoire comme l'histoire du combat privé entre des êtres privés, et non comme une lutte de classe au sein de laquelle une classe, celle des opprimés, viserait d'autres choses que la domination. Si nous résumons, si je résume brièvement ces différentes prises de possession ayant eu lieu avant l'apparition de la dialectique de la raison, il faut constater au moins un point commun. L'État, dans toutes ses conceptions, se fait dévorer à des décrets divers car la logique de la société civile bourgeoise. Logique de la société civile bourgeoise signifie simplement une logique de lutte et de combat entre acteurs privés qui s'opposent à une logique politique visant l'établissement d'une vie commune. Peut-être est-ce pour cette raison que l'État disparaît après les discussions de 1948. La dialectique de la raison raconte en effet l'histoire de l'humanité comme l'histoire de la domination, mais sans faire mention de l'État, sans faire mention de politique du tout. Elle raconte l'histoire non politique de l'humanité parce que, comme disait Adorno, l'humanité n'est pas encore sortie de la préhistoire. Et entrer dans l'histoire, ça voudrait en effet dire entrer enfin dans un ordre politique conscient, de finalité consciente, c'est-à-dire comment réellement maîtrisé par les acteurs qui... Ces ordres-là, donc ces ordres actuels, et je pense pour eux, on pourrait dire actuels, purement social, qui ne sont pas institués par, par une réalité politique, ne peuvent pas... Je pense que la théorie critique dit simplement que nos sociétés ne sont pas politiques parce que de fait, elles s'appuient sur une logique capitaliste. Et donc du coup, on ne va pas les appeler politiques non plus. Et cela véhicule une angoisse, d'une certaine manière, parce que ça va être très loin de ne pas appeler l'agir dans ces sociétés-là, de ne pas l'appeler politique, si on regarde les réactions d'Adorno, notamment à 68, quand même, on pourrait quand même dire, voilà, un agir politique au sein d'une société capitaliste, où Adorno, en effet, a tellement peur de confondre un agir avec un agir politique, qu'il appelle l'activité des étudiants de la pseudo-activité. Vous voulez marquer que voilà, les étudiants croient que c'est de l'activité politique, mais ils ne voient pas du tout que cette activité, elle sort elle-même d'une logique de la domination. Donc, comme si tout ce qui se passe dans le social était incapable de dépasser cette logique de domination. Ce qui d'ailleurs va être vraiment le problème de la théorie critique. Est-ce que cela signifie pour autant qu'il n'y a pas de critique de la politique dans la première théorie critique? Je pense qu'à ce niveau-là, on peut seulement jouer sur les mots. Si on regarde un texte comme celui d'Althusser sur les appareils idéologiques de l'État, un texte auquel on n'a probablement jamais reproché de ne pas être politique, de manquer de réflexion politique, on peut y trouver des passages comme celui-ci, je cite, « Nous pourrons constater qu'alors que l'appareil repressif d'État unifié appartient tout entier au domaine public, la plus grande partie des appareils idéologiques d'État relève au contraire du domaine privé. » Après, on fait une énumération, l'école, l'église, la famille, tous ces appareils idéologiques d'État, pour les dire. Malgré leur caractère privé, les institutions de la société civile, et Althusser se réfère directement à Gramsci qui se réfère à Hegel, donc ces institutions de la société civile, appartiennent à la sphère politique en ce sens qu'elles sont les lieux où le pouvoir politique assure sa reproduction, active autant que passive. Si on compare maintenant cette liste des appareils idéologiques de l'État établis par Althusser à la liste des objets soumis à la critique établie par l'Institut de recherche sociale en 1956, par exemple, mais il y en a plein de ces listes, on voit qu'eux, ils ne sont pas si loin du compte. On y trouve société, individu, groupe, masse, culture et civilisation, art et musique, famille, municipalité. Donc presque la totalité des institutions sociales de la société civile sont considérées comme des objets dignes de critique. Si l'on admet donc une critique de ce qu'on a Althusser appelle les appareils idéologiques d'État, constitue une critique de la politique, on trouve bien cette critique dans la première voie de Francfort, qui, dans les faits, s'attelle à la critique de ce qui produit ou reproduit l'ordre existant. La critique des institutions sociales tiendrait donc lieu de critique de la politique. On peut défendre cette thèse d'autant plus facilement à partir du moment où on admet que le concept de pouvoir défendu par la première école de Francfort est, malgré tout, toute l'importance qui revient à la domination dans leur théorie, un concept de pouvoir qui se concentre sur le côté productif du pouvoir, et non sur son côté répressif. Et le lieu de la productivité du pouvoir est de fait le social. C'est ici que le rapport de domination devient une seconde nature. Je Je vais donc clore cet exposé avec une promesse que je fais peut-être au début, à savoir avec Habermas, qui n'est pas mon auteur de référence, donc tout va être prêt. Et de toute façon, malgré tout, il faut quand même en venir rapidement à la deuxième génération de l'école Francfort, de laquelle on dit communément que c'est elle qui a réintroduit la pensée politique en théorie critique, ce qui n'est pas probablement vrai ou pas faux. Une certaine pensée de la politique aussi. On a vu que, j'espère au moins que le pessimisme à propos de la politique, de l'État en particulier, est relié à des réflexions sur l'État fasciste. Ce n'est plus la situation historique de Habermas ni celle de Honneth. Je pense que c'est la première chose qu'il faut quand même souligner, les deux générations ne sont pas dans la même situation historique. Si je récapitule de manière très condensée la position de la première génération, on peut dire que la trilecture à travers laquelle ils aperçoivent le réel est la logique de la domination. Poussée à son point ultime, cette logique s'accomplit dans l'État de non-droit national-socialiste, mais même là où cette extrémité n'a rien peur, l'État est pensé comme lieu structuré par cette logique de la domination. D'une part, l'État comme appareil d'État, qui devient un acteur privé, mais d'autre part aussi l'État comme communauté d'ensemble politique. Ce n'est pas la logique d'État de l'État qui s'impose à la société, mais la logique de la société civile bourgeoise qui s'impose à l'État. En ce sens, il est une institution sociale parmi d'autres. Ainsi, l'État, même s'il n'est pas fasciste, n'est pas une entité politique, mais une partie intégrale du fonctionnement d'une logique privée, qui est la logique de la société civile bourgeoise. Or, comme la logique de domination est dite relevée de la société civile bourgeoise, et comme en même temps il n'y a pas de lieu de l'agir politique dans toute cette conception, on se demande bien où on dépasse la logique de la domination. Habermas, qui essaie de donner quand même une réponse à cette question plutôt importante, savoir où on peut dépasser la logique de la domination, situe, et je trouve ça pour le moins étonnant, le lieu de ces dépassements précisément dans la sphère que la première génération a rendue responsable de la logique de la domination, c'est-à-dire dans la société civile, qui, chez lui, prend son double, perd son double bourgeois. Ceci est un livre, le sens d'un livre comme l'espace public, où Habermas essaie de détacher le côté civil de la société de son côté bourgeois, capitaliste. Son objectif est de montrer que la société civile libérale est habitée par une autre forme de normativité que celle relevant de la logique de la concurrence et de la domination qui s'ensuit. Cette autre normativité s'effectue précisément dans l'espace public où les citoyens ne cherchent pas à se soumettre les uns aux autres, mais où ils se traitent d'égaux, du moins dans la discussion. Habermas fera de cette intuition d'une autre logique structurant la société civile le fondement de sa théorie philosophique. Philosophiquement conceptualisé, l'espace public donnera lieu à l'agir communicationnel comme lieu d'effectuation de l'égalité, mais aussi de l'égale liberté des citoyens. Chez Habermas, l'agir politique a donc lieu au sein de la société civile même. À partir de ce constat, Habermas peut s'occuper de l'État, qui devient, soit dit au passage, État de droit. Je dis ça, soit dit au passage, parce qu'il est vrai que chez Habermas, il y a l'État-nation comme concept, mais essentiellement, il parle de l'État de droit. Alors que la première génération, si vous vérifiez, moi pour Adorno, je le fais, il ne parle jamais de l'État de droit. L'État, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est pas l'État de droit. C'est plutôt l'État de Hegel, au sens de bioéthique. Donc pour Habermas, c'est clair, c'est l'État de droit quand il parle d'État. L'État de droit n'est lui-même pas un lieu de l'agir commun, mais il est le récipient des résultats de l'agir politique et commun qui eut lieu dans l'espace public. Il doit assurer, de par sa constitution, autant que constitution avec ses majuscules, autant que par la mise en place des procédures adéquates, que les décisions prises démocratiquement et en toute liberté dans l'espace public montent sans être endommagées au niveau de l'appareil étatique qui a pour charge de les transformer en réalité politique. Si on regarde cette conception, on comprend peut-être mieux pourquoi le déficit démocratique qu'Habermas atteste à l'Union européenne aujourd'hui est, à ses yeux, un défaut relié à la constitution de l'Europe et non pas du tout. Le problème n'est pas essentiellement qu'il n'y a pas d'espace public européen, le problème est qu'il n'y a pas une constitution qui permet à cet espace public de générer des décisions politiques. Donc sans constitution appropriée, l'espace public ne peut pas jouer son rôle politique, chez Habermas. La rupture avec la conception du politique de la première génération est trop patente pour Schmidt-Attard. Notons toutefois qu'une continuité plutôt étonnante. Habermas refuse à l'espace public et donc aux citoyens qui agissent en droit. C'est le droit de changer la constitution. Autrement dit, le droit à l'insurrection. L'insurrection qui change, qui serait vraiment véritablement démocratique au sens qu'elle fonde une nouvelle constitution. Ceci parce que la Constitution protège et assure la possibilité de transformer les décisions prises dans l'espace public en fait. Or, on se pose la question de quoi exactement Habermas a peur, en refusant aux citoyens le droit de mettre hors vigueur la Constitution. Dans sa théorie idéale, l'agir communicationnel au sein de l'espace public devrait bien être capable d'établir une nouvelle Constitution, plus démocratique peut-être. Or, Habermas n'envisage pas cette possibilité, moi je ne l'ai pas vu, comme si, secrètement, il avait adopté la perspective de la première génération de l'école Francfort sur la société. Disons qu'une société civile bourgeoise laissée à elle-même, sans institution juridique qui la jubule, est gouvernée par une toute autre logique que celle de l'agir communicationnel, à savoir par la logique de la domination. Comme si alors la normativité politiquement positive que Habermas trouve dans la société civile était tributaire de son institution juridique. Ce qui nous ramène au vieux problème rousseauiste du législateur capable de donner des telles lois qui permettent finalement un espace public qui en retour peut être politiquement effectif. Il est clair que seulement une chose est claire chez Habermas, ce n'est pas l'Assemblée des citoyens qui donne ces lois constitutionnelles. Quoi qu'il en soit du sous-basement inavoué de la théorie politique de Habermas, on peut facilement constater que même sa philosophie reste fortement articulée à une théorie de la société. L'État comme instance de triangulation extérieure à l'agir social n'entre pas vraiment en scène non plus. En tant qu'État de droit, il a certes abstraitement la tâche de constituer l'espace public, en ce sens il est un acteur politique autonome, mais il n'a pas de normativité propre. La logique de l'agir politique provient entièrement de l'agir communicationnel et en ce sens de la sphère sociale. Et en ce sens, Habermas, on peut dire ce qu'on veut, il est plus proche de la première théorie critique au sens qu'il donne le primat finalement à la sphère sociale. Pour clore, je voudrais simplement dire qu'on pourrait maintenant écrire l'histoire de l'école de Francfort à partir de ce problème de l'État. Un peu extérieur à leur préoccupation centrale. On pourrait maintenant l'écrire en regardant cette histoire de triangulation et dire par exemple que peut-être oui, il le sait d'ailleurs même mieux que moi, même si c'est un peu étonnant, mais que la théorie d'Axel Honneth sur l'État, il vient d'en écrire une, il essaye d'en écrire une, essaye justement de se détacher de Habermas à travers cette histoire de triangulation du politique ou du social par le politique. Ce n'est pas très étonnant, il est plus hegelien que le reste, que les restes de cette génération, de cette tradition. Et donc du coup, lui, il essaie de réintroduire curieusement un État, je dirais pas fort, mais qui a une propre normativité qui permet de médiatiser d'une certaine manière les conflits qui ont lieu dans la société civile bourgeoise et qui surtout a une certaine autonomie, comme si la théorie critique elle avait commencé à ramener l'État au niveau de la société civile et au fur et à mesure qu'elle se développe, les théoriciens critiques sortent l'État de nouveau de cette société civile, remettent en place un peu extérieure.
Merci. Merci Julia.